En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
Tom Malki est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire, et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin, tu puisses t'en sortir.
En sortir, un podcast produit par Ground Control.
Pourquoi est-ce que dans cet épisode, je n'ai pas pu inviter une étudiante à venir témoigner ? Pourtant, j'en ai lancé des appels, j'ai épuisé tout mon carnet d'adresses et même ceux de mes collègues. Peut-être que je t'ai appelé toi aussi, pour demander de venir raconter comment la précarité menstruelle t'impacte dans ton quotidien. Et tu m'as dit non. Pourquoi tu m'as dit non ? Peut-être parce que c'est trop intime, et j'y mets des guillemets. Après tout, cela concerne une zone de ton corps dont tu n'as peut-être pas envie de parler tous les jours. Alors, peut-on dire que la précarité menstruelle est tabou ? Doit-on le dire ? Après tout, cela reste un besoin. Est-ce qu'un besoin hygiénique peut vraiment être tabou ? Ça fait beaucoup de questions et je n'ai que 30 minutes pour répondre. Alors pas de panique parce que c'est ensemble qu'on va t'aider à t'en sortir. Nous voilà donc partis pour ce quatrième épisode d'En Sortir. Pas de témoins autour de la table cette semaine et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi. Mais nous avons bien des acteurs de terrain qui sont là. Et pour commencer, je vous présente Anna Prado de Oliveira. Bienvenue.
Bonjour.
Alors Anna, tu es le vice-président général de la FAGE en charge de la lutte contre les discriminations. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref ce qu'est la FAGE ?
Oui, alors la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, première organisation étudiante de France, qui rassemble environ 2000 associations, 300 000 militants, et qui a deux grands axes de travail, l'accompagnement des étudiants et l'animation de la vie de campus à travers des projets de solidarité et d'innovation sociale, et puis la défense des droits des étudiants avec les élus dans les conseils d'administration des universités, du CROUS, etc.
D'accord. Et avec nous par téléphone, il y a Tara Eusé-Sarmini. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alors toi, Tara, tu es la directrice générale et la fondatrice de Règles élémentaires. Même question, qu'est-ce que sont Règles élémentaires ?
Alors Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Donc notre objectif, il est double, collecter et redistribuer un maximum de produits aux personnes qui en ont besoin et briser tous les tabous et les idées reçues autour des menstruations. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe et en 5 ans, on a permis de collecter, de redistribuer plus de 5 millions de produits à plus de 115 000 femmes dans le besoin et on agit donc sur tout le territoire et même à l'étranger. Et mon message pour vous aujourd'hui, c'est vraiment qu'ensemble, on peut changer les règles.
Eh ben, on va revenir aux actions que vous avez mises en place. Aujourd'hui, je le disais, au début de ce podcast, nous abordons un sujet tabou. Alors tabou ne veut pas dire pour autant muet, et j'ai bien des témoignages à vous proposer d'étudiantes qui abordent cette situation de précarité menstruelle. On les écoute tout de suite.
C'est trop cher.
C'est beaucoup trop cher.
Vraiment, en fait, dès que je peux me permettre de rien acheter, de rien mettre, je mets rien et...
Tu dois choisir entre manger parfois et
ouais,
protection.
Ouais. Bah, je préfère manger.
Ouais, je comprends. Ouais.
moi, j'ai investi dans des. J'ai eu de l'argent à un anniversaire et du coup, j'avais payé ça pour me faire des serviettes en tissu. Que c'était aussi genre un peu écologique dans ma pensée de acheter quelque chose en tissu et que pour mon corps je préférais que de mettre des produits chimiques et du coup en fait ça me paraissait logique que c'est pour la santé de mon corps que je voulais investir du coup de l'argent dans un serre pour la santé de mon corps, je sais pas.
Moi je n'arrive pas à mettre des serviettes, moi je mets des tampons et du coup bah je me réserve une seule boîte parce que j'achète des tampons bio et il faut absolument qu'il n'y ait pas de produits chimiques pareil. Donc c'est un budget.
En fait c'est la première fois que je prends des serviettes et tout. Je sais pas lire.
En général, je rentre chez mes parents, c'est surtout là où je fais le plein, donc bon, c'est pas à Paris que je vais en acheter, mais c'est vrai que c'est mieux si je peux avoir des aides à ce niveau-là. Je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir des aides aussi pour des choses qu'on contrôle pas forcément et qu'on est obligé d'avoir en fait, chaque mois.
Bah honnêtement, je suis un peu écolo et du coup un jour je suis allée dans une conférence d'une fille sur Instagram et on nous a offert des copes. C'est vraiment génial parce que c'est durable, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le poche et ça se passe très bien.
Ouais, je trouve quand même, par exemple dans mon pays, ça coûte pas si cher que ça, mais là... Parce que il faut se dire que j'ai ramené de l'argent de l'Algérie pour pouvoir vivre, mais pas beaucoup. Donc, on va dire ça comme ça. Et par exemple, en Algérie, ça coûte 90 dinars, ce qui fait 40 centimes ici, normalement.
Oui.
Oui, mais si c'est le minimum, c'est 1 euro, 2 euros, vous voyez.
Dans mes cas, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est trop cher. Mais je dois l'acheter, donc il n'y a pas de choix.
Pour moi, j'ai une cup et des serviettes réutilisables, donc il n'y a pas de souci pour ça.
Disons les choses comme elles sont, et je pense que quelle que soit l'université dans laquelle on est, à l'heure actuelle, on est 90% à ne pas aller à la fac, dans les lieux où on a nos cours habituels à cause de la situation actuelle. Donc dire en fin d'année, je vais vous mettre des distributeurs gratuits, je suis désolée de dire ça vulgairement, mais c'est un peu de se foutre de notre gueule.
Bon alors, on vient de l'entendre, la précarité menstruelle n'est pas la même pour tout le monde. Alors avant toute chose, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce qu'est la précarité menstruelle. Et je voudrais commencer par toi, Anna, vu que tu es le vice-président chargé de la lutte contre les discriminations. Question simple, est-ce que la précarité menstruelle est une discrimination ?
Alors, au sens stricto sensu de la loi, c'est pas une discrimination, mais en réalité, quand on se rend compte que, par exemple, dans l'enquête que la FAGE a menée sur la précarité menstruelle, quand on se rend compte que 6 étudiantes sur 10 n'ont pas pu aller en cours de peur d'avoir des fuites, parce qu'elles n'avaient pas de protection menstruelle, elles n'avaient pas de tampons, elles n'avaient pas de serviettes, en effet, c'est une discrimination, parce qu'on n'a pas le même accès à l'enseignement supérieur, pas le même accès non plus forcément au travail, en fait, parce que ça peut aussi arriver dans le monde du travail. Donc oui, en ce sens, la précarité menstruelle, c'est un réel problème.
Et alors, Tara, je me tourne vers toi. Chez Règles élémentaires, quels sont les symptômes qui vont démontrer pour vous que la précarité menstruelle est une forme de discrimination ?
Alors, avant de répondre, je vais me permettre de donner une définition de la précarité menstruelle. Chez Règles élémentaires, on considère que c'est toute forme de difficulté ou d'impossibilité à se procurer des produits d'hygiène intime de première nécessité. Et donc, une conséquence qui empêche très clairement de vivre ces règles dignement. Sont en situation de précarité menstruelle toutes les personnes qui, soit ne peuvent pas s'acheter suffisamment de produits, soit ne peuvent pas s'en procurer du tout. Donc, ça concerne encore malheureusement énormément de personnes. Parmi ces personnes, beaucoup, beaucoup d'étudiantes, comme on le voit dans ce podcast. Et en fait, la précarité menstruelle, c'est vraiment le résultat d'une inégalité physiologique. Vous avez un utérus, a priori, vous avez des règles. Vous n'avez pas de règles. Donc, c'est vraiment une inégalité physiologique qui va se transformer en inégalité financière, puisque donc pour vivre ces règles dignement, faut se procurer des produits. Ça représente un certain budget, ça représente une certaine logistique aussi. Et comme Anna vient de le dire, ça peut empêcher certaines personnes d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'aller au travail. Donc c'est en ça que c'est un facteur supplémentaire de discrimination. C'est en ça également que c'est un obstacle à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Est-ce que c'est ça, Tara, qui entraîne le tabou sur cette question de la précarité ?
Non, le tabou, il remonte à la nuit des temps. C'est pas particulièrement la question de la précarité qui l'entraîne. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le tabou qui va entretenir la précarité. Règles élémentaires existent depuis un peu plus de 5 ans, mais la précarité menstruelle existe depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose qui était sur les radars, ni de la société civile, ni des politiques publiques. Il y a de tels formatages, conditionnements pour que les femmes pensent que c'est un sujet sale, dont elles ne doivent pas parler, absolument personnel et individuel, alors qu'en fait, ça concerne tout le monde.
Tu parles de conditionnement, ça m'intéresse justement. Qu'est-ce que tu entends par conditionnement ? C'est une question volontairement naïve, évidemment, pour qu'on définisse bien auprès de nos auditeurs.
Alors, les conditionnements, ils arrivent à tous les niveaux. Ils peuvent être religieux. Déjà, dans les textes religieux, on parle de l'impureté, du sang des règles, de la saleté. On sépare les femmes du reste de la société lorsqu'elles ont leurs règles. C'est Hippocrate qui, au balbutiement de la médecine, raconte que les femmes peuvent faire pourrir des récoltes ou faire tourner le vent quand elles sont dans cet état. Ce sont plein de croyances autour du sujet, de fausses croyances qui ont entraîné des tabous, des traditions, des coutumes qui mettent les femmes à l'écart et qui diabolisent ce sujet et qui poussent toutes les personnes ayant leurs règles à ne surtout pas en parler, à ne surtout pas l'aborder en public. Et en 2021, il y a encore des personnes en situation de précarité qui n'osent pas témoigner ou informer du fait qu'elles sont en situation de précarité menstruelle, trouvant que c'est gênant, trouvant que c'est honteux ou encore que ce n'est pas un sujet dont elles devraient parler en public.
Anna, est-ce que tu souhaites compléter sur ce que vient de dire Tara concernant les raisons de ce tabou ?
Oui, bah alors Tara a été extrêmement complète et là-dessus, je ne peux que conseiller d'aller regarder le documentaire 28 jours de Angèle Marais, il est disponible sur YouTube en plus, donc facile d'accès, et qui explique bien en fait comment bah, depuis la nuit des temps, on dit aux personnes qui ont la règle, vous êtes impures parce que vous avez vos règles. Et bon, là où je reviendrai, c'est que toutes les femmes cisgenres, donc qui ont été assignées femmes à la naissance, n'ont pas leurs règles, pour différentes raisons, malformations, par choix aussi. On peut prendre par exemple une pilule en continu et c'est totalement sécure, enfin il n'y a pas de risque à prendre une pilule en continu, ça c'est la médecine encore une fois qui fait croire qu'on a besoin d'une pause et d'avoir des règles factices. Et puis certaines personnes qui ne sont pas des femmes ont leurs règles aussi et c'est extrêmement compliqué pour elles d'avoir accès justement à toute cette sensibilisation, les hommes transgenres, les personnes non binaires, qui vont avoir peur d'aller consulter des sages-femmes, des gynécologues qui ne sont pas formés justement à la réception d'hommes avec des utérus quoi.
Oui, c'est ce qu'on disait au début de ce podcast, évidemment, la précarité menstruelle concerne tout un tas de personnes, évidemment. Je voulais ajouter, qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que ce tabou soit levé ? Quelle action il faudrait mener ?
Alors, nous, à la FAGE, on pense que pour que le tabou se lève, comme on est une association qui est de l'éducation populaire et qui milite, pour nous, il faut absolument de la formation, de la sensibilisation. Donc, il y a une grande part de responsabilité dans l'éducation des jeunes, l'éducation sociale de tout le monde sur, voilà, les règles, ce n'est pas sale. C'est normal en fait, c'est juste un moment du mois, un moment de la vie qu'on doit vivre et c'est mieux si on peut le vivre, enfin c'est pas mieux, c'est normal de vouloir le vivre dignement. Et donc là-dessus, une responsabilité de l'école, une responsabilité aussi des médias qui doivent montrer des règles qui ne sont pas douloureuses, ne pas faire un pataquès autour de l'odeur des règles. On le voit beaucoup ça dans les pubs à la télévision par exemple, il y a aussi ce gros problème de la représentation. Jusqu'à il y a très peu de temps, on voyait que des gouttes de liquide bleu sur des serviettes ou sur des tampons. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est du sang. Le sang, il peut avoir plusieurs couleurs, plusieurs textures. Et c'est important de le montrer pour que les gens ne soient pas inquiets, justement, de ce qu'ils ont une fois par mois.
Justement, sur la façon de lutter contre le tabou, je voudrais vous interpeller tous les deux sur un geste militant, celui de l'instagrammeuse Irénée qui s'est pris en photo montrant ses pantalons de couleur, d'ailleurs très colorés, tachés du sang de ses règles. Alors, je vais vous poser la question chacun à tour de rôle. D'abord, Anna, quelle est ton impression sur ce geste militant ? Est-ce que justement, c'est ce genre de geste militant qui font avancer l'interprétation et la pensée sur les règles ?
Ouais, Irénée est une militante incroyable. Ce geste de se prendre en photo dans Paris et de dire je laisserai mon sang couler à flot sur la capitale si l'État ne me donne pas de quoi subvenir à mes besoins, c'est fondamental comme geste. Ça impacte énormément. Donc oui, bien entendu, il faut de la visibilité sur des choses chocs comme ça. Il y a aussi beaucoup de podcasts comme La Menstruelle ou Cyclique qui parlent beaucoup aussi de la précarité menstruelle. Et puis là où il faut en effet des initiatives individuelles, je pense qu'il ne faut pas soustraire l'implication des associations, qui elles ne font pas toujours de la sensibilisation choc, comme a pu faire Irénée et ce que je salue, mais font de la sensibilisation au quotidien, peut-être de manière plus soft.
Tara, le militantisme choc pour lutter contre le tabou de la précarité menstruelle, est-ce que tu dis oui ?
On est convaincu des vertus de la sensibilisation et on mène énormément d'actions dès le plus jeune âge. Donc, on va mener des ateliers de sensibilisation dès la sixième. On pense également qu'il faut une implication des pouvoirs publics, de l'éducation nationale également, qu'on en parle dans tous les manuels scolaires, dès les petites classes en fait, parce que aujourd'hui c'est présent dans quelques manuels, mais souvent bien après l'âge médian d'arrivée des premières règles. Donc voilà.
Oui, 2017, la première représentation du clitoris, c'est ce que je viens d'apprendre effectivement.
Oui, tout à fait. Et en fait, souvent c'est dans les programmes scolaires de quatrième, voire de troisième. Souvent, ça peut être doucement évincé par un professeur de SVT un peu trop conservateur. Bon, voilà, il y a plein de choses. On se rend compte également qu'il faut rendre ce sujet visible dans l'espace public. Donc, nous, on organise également un certain nombre de campagnes d'affichage. On souhaiterait voir l'installation massive de distributeurs dans des lieux aussi bien publics que privés. Donc, en fait, dans la rue, dans le métro, dans des gares, dans des restaurants, dans des bars, dans des hôtels, enfin, vraiment pour normaliser ce sujet et que ça n'en soit plus un.
On vient de parler des mesures, de la mobilisation de règles élémentaires contre ces précarités. Anna, qu'est-ce que l'AFH fait concrètement, idem, pour lutter contre la précarité menstruelle ?
Alors l'AFH, elle fait plusieurs choses. D'une part, elle participe à des distributions de protection menstruelle avec notamment règles élémentaires. Et on a aussi dans nos agorées, nos épiceries sociales et solidaires, qui vendent en fait des denrées à 10% le prix du marché. On a du coup voilà, des espaces réservés, donc de gratuité pour les protections, à faible coût aussi, et on fait de temps à autre des formations sur l'utilisation de protections réutilisables. Comment utiliser correctement une cup, une serviette lavable pour ne pas développer de staphylocoque et avoir un choc toxique par exemple. Donc on fait ça, et puis on est la première organisation étudiante à avoir mis en lumière la précarité chez les étudiants en France sur la question des menstruations, avec du coup cette enquête nationale qui a entraîné une très très grande victoire, en fait l'annonce par la ministre Frédéric Vital de la mise en place de distributeurs de protection menstruelle dans tous les lieux fréquentés par les étudiants, à savoir les CROUS et les services de santé universitaires.
Alors justement, c'est notre moment, interpellons les pouvoirs publics. Pour aller plus loin, qu'est-ce que tu penses concrètement de cette annonce gouvernementale affirmant que, je le rappelle, hein, des serviettes hygiéniques seront distribuées dans nos facs à la rentrée de septembre 2021 ?
Mais c'est une très bonne annonce, en fait, de pouvoir mettre enfin en place des distributeurs dans des lieux de passage des étudiants. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme le disait Tara, on a volonté de visibiliser. Pourquoi est-ce que, par exemple, on visibilise énormément les distributeurs de préservatifs et pas ceux de protection menstruelle ? Ça peut être une question. Parce que c'est aussi tabou, en fait, le sexe dans toutes ces situations-là. Donc, c'est une très bonne annonce. Nous, on sera attentifs à ce que ce soit déployé absolument partout en France, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Drumcom, que ce soit dans les grandes villes universitaires comme Paris, Marseille, Lyon, ou les sites délocalisés, qu'on appelle, qui sont du coup des antennes d'universités qui se trouvent plus dans des petites villes qui n'ont parfois pas de CROUS, parfois pas de services de santé universitaire. Il faut aussi qu'on fasse attention à ce que ce soit accessible à toutes les formations, parce que là, donc, on s'adresse à l'enseignement public, ce qui est une très bonne chose, mais les étudiants et étudiantes dans l'enseignement privé sont aussi dans une grande situation de précarité, et c'est là où il faut aussi penser. Puis les formations comme ostéopathes qui ne sont pas, par exemple, rattachées à l'université, des choses comme ça. Donc voilà, nous on fera attention à ça, et puis attention aussi à ce que ces protections menstruelles qui seront présentes du coup dans les distributeurs soient respectueuses tant du corps de l'être humain que de
l'environnement.
Ouais.
D'accord, et toi Tara ?
Alors nous, on s'est également réjouis de cette annonce, hein, et des chaînes de supermarchés se sont également engagées pour assurer l'intermède. Donc Carrefour propose notamment aux étudiants dans le besoin des paquets de protection gratuitement d'ici la mise en place de ces initiatives. Donc on a vraiment parcouru un chemin immense en très peu de temps, et on s'en réjouit. Après, comme Anna, on sera vigilant à la véritable exécution de ces annonces. Et nous, on souhaite aller encore plus loin. En fait, on souhaite la gratuité pour toutes les personnes dans le besoin, les personnes SDF, les travailleuses pauvres, les familles monoparentales, etc., etc. Et on souhaite également, voilà, une meilleure information sur l'utilisation de protections hygiéniques réutilisables, car ce sont des dispositifs encore trop peu connus, donc de plus en plus connus chez les étudiantes, mais au sein de la population générale, trop peu connus. Et pourtant, ce sont, comme on le disait, des protections souvent plus respectueuses de l'environnement, de la santé, et en plus plus économique sur le long terme d'un point de vue financier. Donc voilà ce qu'on souhaite, et encore une fois une vraie visibilisation du sujet pour que ça n'en soit plus un.
Et bien justement, tu as précéder ma prochaine question et du coup je vais demander à Anna si tu souhaites compléter ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin après cette annonce gouvernementale.
Alors l'annonce gouvernementale, ce n'est pas seulement d'ailleurs que la mise en place de distributeurs de protection menstruelle, c'est aussi la mise en place d'une stratégie de sensibilisation qui sera faite en concertation avec les associations étudiantes notamment, puisque comme j'en parlais tout à l'heure, l'enquête nationale qu'on a faite sur la précarité menstruelle étudiante, elle a été portée par la FAGE, par l'ANESF, Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes, et puis par la FEP, Association fédérative des étudiants picto-charentais. Donc dans la construction des campagnes de communication et de sensibilisation sur la précarité menstruelle, sur la réalité des règles et pour briser le tabou, l'ANESF participera, notamment du coup avec le ministère, à créer cette campagne-là de communication, et nous on s'investira en fait de tous les moyens possibles, dans nos agorées, dans nos associations, pour faire des sensibilisations sur voilà, la réalité des règles, briser le tabou, et l'utiliser la bonne utilisation des différents produits réutilisables comme la cup.
Alors, est-ce qu'on est tous d'accord ici que par le biais d'associations, je veux aussi en rajouter une à celle que vous avez déjà citée, Linky, qui distribue depuis peu dans ses distributions des serviettes hygiéniques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que au niveau associatif et même un petit peu au niveau gouvernemental, il y a une vraie prise de conscience de la précarité menstruelle? Anna.
Oui, et je pense que en fait, ce sont les associations qui aussi les premières ont parlé de la précarité menstruelle et qui ont informé sur ces dangers, comme le choc toxique, parce qu'être en précarité menstruelle, c'est se mettre en danger sur sa santé aussi, par exemple, puisque le choc toxique peut entraîner de nombreuses infections et parfois même la mort, donc c'est pas n'importe quoi. Ce sont les associations, notamment féministes, du coup, qui ont alerté sur ça, et puis qui ont proposé les premiers pansements à la société pour pallier au manque de protection, pallier au prix des protections. C'est grâce notamment à l'association Georgette Sand qu'en 2015, la TVA des produits menstruels, qui était avant à 20%, comme les produits de luxe, est passée à 5,5%. Donc ça, c'est une grande victoire aussi. Et c'est grâce à des associations comme Règles élémentaires, comme Marguerite et compagnie aussi, et comme Dans ma culotte, qu'on arrive à avoir des distributions de produits menstruels variés, en fait.
Alors, Tara, Anna, tout à l'heure, mentionnait effectivement le cas de ces personnes qui sont victimes de précarité menstruelle et qui ne peuvent plus aller en cours. Et pour bien insister sur l'urgence de cette situation, j'aimerais te demander, est-ce que tu as constaté une forme de détresse psychologique découlant de cette précarité menstruelle?
Bien sûr, nous, Règles élémentaires qui luttons contre la précarité menstruelle depuis 2015, ce qu'on explique de long en large et en travers, c'est que c'est un problème de santé publique parce que ça a des conséquences désastreuses, à la fois psychologiques, avec des sentiments de gêne, de honte, perte de confiance en soi, mais aussi physiologiques, donc avec des conséquences comme des maladies, des mycoses, des infections, pouvant, comme l'a rappelé Anna, entraîner jusqu'à la mort ou des amputations dans les cas les plus graves du syndrome du choc toxique. Donc c'est un réel problème de santé publique. Et en plus, si on pousse le raisonnement encore plus loin, cela va mener à de véritables inégalités salariales, d'insertion, de réinsertion. Donc on dit souvent, en fait, comment voulez-vous aller passer un entretien si vous n'êtes pas capable de vous protéger? En fait, comment aller passer un entretien en saignant et avec des vêtements tachés? C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on observe aussi, c'est que donc toutes les personnes en situation de précarité menstruelle qui sont contraintes de rater l'école, de louper des cours à l'université, etc., cet absentéisme peut se traduire par du décrochage scolaire, du décrochage universitaire, et ça a des conséquences dramatique sur toute une vie, puisque si vous n'avez pas accès à la même éducation que vos pères à cause d'une situation de précarité menstruelle, peut-être que vous aurez de moins bonnes notes, vous réussirez moins bien vos examens, vous ne serez pas embauché au même niveau de salaire, etc. etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dont il est urgent de sortir. Beaucoup de choses ont été faites en très peu de temps et on espère qu'on pourra éradiquer la précarité menstruelle étudiante, mais aussi auprès de la population générale dans les années qui viennent.
Alors, une dernière question que je vais vous poser à tous les deux, et je te la pose à toi, Tara, en premier. Quel est ton message pour une personne qui est victime actuellement de cette précarité menstruelle ?
Alors, mon message, c'est surtout en parler, sortir de ce cercle vicieux du tabou et de la honte. Aujourd'hui, heureusement, grâce à nous, grâce à la FAGE, grâce au pouvoir public également, il existe des solutions. Donc, c'est en parlant qu'une personne victime de précarité menstruelle pourra trouver des solutions et pourra donc déjà, dans un premier temps, se fournir peut-être ponctuellement en protection d'hygiène intime et ensuite de manière plus durable grâce à tous les dispositifs qui sont mis en place. Ensuite, ce que j'ai envie de dire et qu'on n'a pas trop abordé dans cet épisode, mais qui est important, c'est la précarité menstruelle. C'est bien évidemment la difficulté ou l'impossibilité de se procurer des produits de première nécessité, mais ça peut également être aggravé et empiré par l'absence de diagnostic de maladies liées au cycle menstruel. Je pense notamment à des maladies comme l'endométriose, qui aujourd'hui en France prennent encore jusqu'à 7 ans pour être diagnostiquées. Et en fait, non seulement ça peut provoquer des règles beaucoup plus abondantes, beaucoup plus douloureuses, ça peut du coup d'autant plus vous clouer au lit, etc., et vous pénaliser, vous handicaper dans votre parcours de formation et dans votre vie tout court. Et on en parle de plus en plus, il faut en parler de plus en plus. Et donc, si vous êtes en situation de précarité menstruelle, surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à des responsables de votre université, des associations, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels de santé, un infirmier, une infirmière, un médecin ou une gynécologue. C'est vraiment essentiel parce que derrière la précarité menstruelle peut aussi se cacher ce type de facteurs aggravants qui ne font qu'empirer la situation.
Anna, ton message, conseil ?
Eh bien, moi je dirais tout simplement n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul et tournez-vous vers les associations étudiantes, soit du réseau de la FAGE, mais enfin toutes les associations globalement qui traitent de ces sujets-là. N'hésitez pas à venir dans nos agorae qui peuvent vous accueillir pour créer un dossier et que vous soyez bénéficiaire sur le plus long terme, puisque cette crise sanitaire est assez compliquée et en fait au-delà de la précarité menstruelle, la FAGE agit sur toutes les questions de précarité qui peuvent toucher les jeunes. Donc voilà, venez voir nos agorae, venez voir nos associations et puis si vous avez des questions de santé, tout simplement. Il y a un très bon chat qui a été mis en place, qui s'appelle les Pipelettes. Donc, ça a été mis en place par l'Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes et les différentes associations pro de sages-femmes et qui permet de poser, du coup, voilà, ces questions sur sa santé intime, enfin, toutes ces choses-là et qui peut être un bon premier pas aussi pour avancer contre la précarité menstruelle et contre l'isolement intime.
Et ça s'appelle les Pipelettes, donc je le répète. Merci vraiment beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation d'abord et puis de nous avoir aidés à briser ce tabou aujourd'hui. C'est maintenant que s'achève notre 4e épisode d'En Sortir, produit par Grande Contrôle. Chaque semaine, nous abordons ensemble une précarité qui touche nos étudiants et étudiantes. Et la semaine prochaine, on s'attaque ensemble à une autre précarité moins connue, la précarité culturelle. Allez, chers auditeurs, à très bientôt et en attendant, crois en toi, car tu vas t'en sortir.